L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.
Cette semaine, l'heure de pointe, on met le cap sur Tarbes, direction un lieu emblématique de la scène musicale du Sud-Ouest, la GESP. Née dans les années 1980 au cœur d'un quartier en pleine mutation, cette salle devenue aujourd'hui une SMAC, une scène de musique actuelle labellisée par l'État, s'est imposée comme un véritable moteur culturel. Concerts, accompagnement d'artistes, actions pédagogiques, résidences, enregistrements. La GESP, c'est bien plus qu'une salle. C'est une fabrique musicale, une pépinière de talents et un lieu de vie artistique. Et derrière cette aventure, il y a un homme. Et quel homme ? Pierre Domingès, à la fois directeur artistique, musicien et auteur. C'est lui qui, au tournant des années 90, a contribué à repenser le projet pour en faire un outil dédié à la création et à la diffusion de musique actuelle. 30 ans plus tard, la GESP continue de faire vibrer Tarbes et toute la Bigorre, et même le Sud-Ouest, en conjuguant exigence artistique, ouverture au public et enracinement local. Pierre Domingès est notre invité. Il va nous raconter l'histoire de cette aventure collective, les défis d'une SMAC d'aujourd'hui et la place qu'occupe la GESP dans le paysage musical régional. Pierre Domingès, bonsoir.
Bonsoir Philippe, merci de m'accueillir.
Alors, question, comment est née la GESP et comment ce lieu a-t-il su garder son âme tout en évoluant avec son époque ?
C'était un lieu qui avait une très belle histoire, puisqu'il a été créé, inauguré toujours en 1961, et qui était une sorte de lieu culturel de quartier. C'était la grande époque des centres socioculturels. Un quartier qui était en pleine construction. Hein, c'était les champs, la GESP, c'est le nom d'une rivière qui traversait les champs sur ce quartier-là. Une coopérative ouvrière, ça s'appelle le Nibigourdan, qui avait été créée par André Guerlain, et qui mutualisé pour construire des maisons dans ce quartier tout neuf, quoi. Et qui, avec le surplus de ce quartier, des financements qu'ils avaient réussi à trouver et qu'ils avaient réussi à faire grossir, il y a eu la construction d'une église sur la place, quoi. Et dont on dit, oui, c'est bien une église, mais on veut aussi un lieu culturel. Donc on a créé le centre culturel de la GESP, qui était un lieu unique, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre lieu culturel, le parvis n'existait pas. En plus, avec une population dont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants étaient installés dans ce quartier, donc des gens qui avaient quand même une fibre associative, le contact avec les gamins, le sens de l'animation, et qui ont créé dans la GESP des clubs de photo, de ski, de plein de choses. C'était un lieu qui était excessivement dynamique, avec une association qui s'appelait les Amis des Arts et de la Musique, et qui faisait des concerts de musique classique, mais aussi qui accueillait les fameuses tournées barrées, parce que c'était le seul lieu où on pouvait voir du spectacle. Donc, elle a connu une période d'or. Et puis, effectivement, population vieillissante, un peu le désengagement associatif, quoi. Elle était simplement un lieu qu'on prêtait pour des réunions ou autre, quoi. Mais il n'y avait plus vraiment de vie
cet
et d'animation.
Cet esprit un peu culturel, hein, ouais.
Il n'y avait plus de vie. Et lorsque la mairie de Tarbes a acheté ce lieu, à la fin des années 80, on va dire, il n'y avait pas réellement de projet. Il fallait l'acheter parce qu'on ne pouvait pas laisser ce lieu en décrépitude. C'était quand même un lieu qui appartenait au patrimoine tarbais, quoi. Donc c'est un lieu qui a toujours eu quand même une et toujours dans le cœur des tarbais, parce que voilà, c'était un repère. Quand on était gamin, on allait faire le club de Jacques Le Bourgeois, le club de musique, il faisait son spectacle annuel là, le club de danse, un tel. Donc tous les tarbais ont une histoire avec ce lieu, et ce qui a permis de le garder. Mais bon, il n'y avait pas réellement de projet, et puis bon, à ce moment-là, comme il n'y avait pas de projet, j'en ai écrit un que j'ai proposé à la mairie, et le maire m'a dit, à l'époque, Thierry Montgrassaré, il m'a dit, écoute, Vas-y, banco, si tu veux faire quelque chose, mais bon, on ne peut pas te promettre de budget pour le moment, quoi. Et surtout, évite les gratteurs de jambon. Il me disait, les gratteurs de jambon, c'était les guitaristes de rock, parce que j'étais dans un groupe de rock à ce moment-là. Pas de gratteurs de jambon, c'est un quartier très vieux. Or, quand je suis arrivé dans le quartier, puisque bon, j'étais armé, bien sûr, mais mes enfants étaient à l'école dans le quartier de la Gespe, je remarquais qu'on avait déjà eu des peines terribles pour avoir des places en cantine. C'était donc qu'il y avait du monde dans le quartier, qu'il y avait de la jeunesse, puisqu'il y avait des gamins. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu comment était le quartier. Effectivement, c'était plus le quartier qu'on m'avait présenté comme étant un quartier vieillissant, mais au contraire, la caserne Frolesqueuse s'était installée, donc avec des familles, avec des gamins, avec le quartier Sous l'Azur aussi, qui avait grandi, etc., et qui était juste à côté, et puis l'autoroute qui desservait l'hôpital de Tarbes, etc. Donc c'était un quartier qui était en pleine mutation. Donc je me suis dit, il faut démarrer par faire de l'activité pour les gamins qui sont sur le quartier, les petits. Donc on a démarré avec une école de cirque, qui a super bien fonctionné, qui maintenant est autonome et existe encore, puisqu'elle s'appelait l'école de cirque de la Gespe, elle est devenue passive, mais c'est l'école que nous avons créée à la Gespe. Et puis évidemment, les gratteurs de jambon, moi ça me grattait la tête, quoi, parce que j'en étais un, je les connaissais, c'était beaucoup de copains qui voulaient m'aider, me soutenir, quoi, venir jouer gratuitement dans un premier temps pour faire connaître le lieu. Et donc, bon, j'ai un peu triché et j'ai commencé à faire des concerts, quoi. À la Gespe, c'était les concerts qui étaient, c'était épique. Hein. Il fallait démonter les sièges parce que c'était une salle pleine de sièges, quoi. Hein. Il fallait démonter et puis après les concerts, il fallait remonter, quoi. Hein. Souvent même les musiciens. Hein. Et donner la main, quoi. Il y a eu ce soutien des artistes locaux avec qui je faisais la route moi le reste de l'année, puisque on se croisait, moi je jouais aussi, donc je leur parlais toujours du lieu. Je dis, il faudrait que vous veniez me filer un coup de main pour faire connaître le lieu. Et ça a démarré comme ça. Après, il y a eu l'écriture d'un projet beaucoup plus, on dirait, élaboré, parce que il y avait cette idée de. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait des lieux pour que les artistes jouent. Hein. Il y en a moins maintenant. Par contre, il n'y avait aucun lieu pour qu'ils puissent travailler, répéter, être soutenus, etc. Donc l'idée pour moi, ça a été déjà de faire un lieu d'accueil pour les artistes, avec possibilité d'endroits pour répéter, mais aussi possibilités de faire venir des coachs vocaux, des techniciens qui puissent les aider à se structurer sur scène, quoi. Donc on est parti là-dessus. Après, bon, voilà, après il y a eu le label. C'est l'histoire a continué, mais autrement, c'était beaucoup plus sérieux, il y a eu des financements, on s'est plus structuré.
Vous êtes professionnalisé quelque part, hein. Vous êtes professionnalisé, oui. Avec ce label SMAC que vous avez été chercher vous-même.
Voilà, oui, parce que la première fois que j'étais le demander ce label, il disait il faut une équipe, un équipement, un projet. Le projet, je l'avais, l'équipe, c'était moi. Et l'équipement, j'en avais pas. Donc il a fallu qu'on se structure, qu'on réfléchisse, qu'on commence avec à signer des partenariats avec des loueurs de matériel son pour qu'on puisse accueillir les artistes, écrire un projet qui aille au-delà de la diffusion de spectacles. Hein. Qu'est-ce que ce sont que les musiques actuelles? Comment elles peuvent servir à développer des projets du bien-être, de l'épanouissement chez les jeunes, ce qu'on appelle l'éducation artistique? Enfin, il fallait tout ça, et puis il fallait aller chercher un petit peu de personnel. Et donc, la seconde fois où j'ai présenté le projet, là, il n'a pas été du tout retoqué par la DRAC, ou les Pyrénées, au contraire.
La DRAC, rappelez-nous ce que c'est.
La Direction Régionale de l'Action Culturelle. C'est l'État, quoi. C'est le ministère, ouais, de la Culture en région. Et donc, oui, effectivement, là, il y a eu un premier soutien. La ville de Tarbes s'est dit, bon, si la DRAC soutient, il y aura la région. S'il y a la région, il faut qu'il y ait la ville. Et là, on a commencé vraiment à avoir les vrais moyens pour développer un vrai projet. Voilà. Et qui n'a cessé d'évoluer avec des nouveaux outils, avec des nouvelles missions, mais aussi des nouvelles ambitions.
Alors, parlons un peu aujourd'hui, en 2025, de cette salle et de ce que vous y faites. Alors aujourd'hui, il y a des concerts, il y a des spectacles, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui s'y passe?
Dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle de l'accompagnement artistique. Ce sont des artistes plutôt locaux qui viennent travailler leur musique, pour lesquels on met à disposition un coach vocal, parfois des techniciens, parfois un preneur de son studio, et on les aide, on s'implique dans leur projet, on les aide à valoriser leur projet. Il y a aussi des résidences d'artistes, là c'est plutôt pour les artistes professionnels, des gens qui viennent sur un temps assez long. Et sur ce temps assez long, la thématique est, par exemple, bon, on va faire le printemps de Bourges, il faut venir travailler le set, donc on enchaîne les morceaux, on doit faire une grosse salle ou une tournée, il faut qu'on teste le nouveau plan lumière, ou le construire, ou le créer, donc on le construit, le crée ensemble. Là, il y a des thèmes. Et c'est quasiment, entre l'accompagnement artistique et les actions qu'on fait aussi par rapport à ce qu'on appelle les fabriques en musique, il y a un travail de structuration des artistes collégiens, lycéens, par exemple l'atelier musique de Marie Curie qui vient régulièrement, ils viennent travailler sur scène pour travailler le jeu de scène, pour travailler le son sur scène et l'équilibre. Bon, on va dire que tous les jours, quasiment tous les jours, il y a quelque chose dans la salle.
Alors, bien sûr, on parle toujours des artistes, des musiciens qu'il faut qu'ils répètent, mais il y a aussi l'autre volet, les techniciens, les preneurs de son, l'éclairagiste, c'est un métier à part entière. Là aussi, vous les aidez à mettre en place, vous avez du matériel sur scène aujourd'hui à demeure.
Oui. Donc on est équipé. Il y a des jeunes stagiaires en technique qui viennent souvent pour apprendre à utiliser une dernière console que l'on a. Donc il y a aussi ce travail technique. Et d'ailleurs, on fait aussi beaucoup de visites de salles dans lesquelles les techniciens sont là pour présenter leur métier. À des jeunes en général, ce sont des lycéens ou des collégiens, quoi. Il y a beaucoup de gamins qui sont passionnés par ce monde des musiques actuelles et surtout le côté nomade que peut avoir la technique d'un spectacle. Aujourd'hui on est à la GES, mais demain on monte un chapiteau et un spectacle à Toulouse, etc. Et donc on fait des visites guidées de salles où ils peuvent manipuler, où on leur explique le métier, mais pas que le métier de son et de lumière, il y a aussi l'accueil, le catering, les loges, enfin, tout ça, vide de salle, et c'est la partie technique quand même ça.
Est-ce qu'il existe des écoles d'ailleurs pour se former à ça, ingénieur du son, éclairagiste, régisseur, est-ce qu'il existe des écoles?
Oui, il y a des écoles, il y a des formations qui sont quand même difficiles d'accès, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent pour se préformer ici, de manière à ce qu'ils puissent après intégrer les écoles. Ils viennent chez nous et on leur donne toutes les bases et on les prépare à justement entrer dans ces écoles. C'est très régulier, on en a quasiment un ou deux tout le temps, quoi. Voilà, ça peut être des stages de 3-5 semaines ou d'une semaine pour les plus jeunes, mais quasiment, dès que l'année scolaire démarre, là, on a une liste de stagiaires qui ont des projets sur des écoles à Bayonne ou à Toulouse, etc. Il y en a plusieurs. Et souvent, qui sont issus des écoles aussi de Tarbes, où il y a une classe de son et d'audiovisuel, je pense, au lycée Saint-Pierre. Et donc, nous, on prend le relais et on essaie de faire l'intermédiaire avec les formations. Alors, ça peut être des formations sur les formations qualifiantes, mais aussi des formations dans le cadre de structures régionales comme la structure Octopus, qui est une structure labellisée par la région et qui fait aussi des formations pour ces jeunes-là. Mais il faut absolument qu'ils passent par nous d'abord, parce que le niveau est un peu plus haut quand ils vont arriver sur ces écoles-là.
Mmh. Comment se porte aujourd'hui la culture, la musique? Est-ce qu'aujourd'hui, des parents vont dire à leur enfant, lance-toi dans l'artistique? Bon, bien sûr, il y a le fameux dispositif des intermittents du spectacle qui existe encore, qui avait été mis en danger, mais qui aujourd'hui perdure, mais qui peut-être peut évoluer. Et est-ce que ça ne fait pas peur aussi aux parents, aux jeunes? On est quand même dans quelque chose qui reste marginal.
Oui, et puis qui s'aggrave.
Qui s'aggrave.
Le dispositif, il existe encore, mais il est de plus en plus dur à gérer, parce que le dispositif existe, mais il y a de moins en moins de concerts. Les festivals ne font plus recette, ou alors ce sont des gros festivals qui prennent toute la place, qui font disparaître les moyens. Enfin, avant c'était les petits, maintenant c'est les moyens. Les salles ferment, beaucoup de salles ferment, faute de subventions. Il y a aussi une morosité depuis quelques années. Hein, ça a commencé avec le Covid. Des publics qui n'ont pas toujours ce trajet vers les salles de spectacle. Et surtout, la manière de consommer la musique a complètement changé. Les jeunes de maintenant, la musique, ils n'achètent plus de disques, ils n'achètent plus de CD. Ils la consomment sur les portables.
Sur les plateformes.
Les plateformes. Mmh. La scène, le spectacle, c'est pas leur priorité. Souvent, les soirées musicales se font à la maison.
Alors, voilà, quelque part, Pierre Domingès, alors là, on parle bien sûr des artistes qui ont pignon sur rue, très connus. Avant, ils gagnaient de l'argent sur la vente des vinyles à l'époque, et puis ensuite des CD, des albums. Et les concerts étaient plutôt pour faire de la promotion d'un album, et les prix étaient abordables. Aujourd'hui, ils gagnent pratiquement plus trop leur vie là-dessus, non. Mais sur du concert. Donc du gros concert, payant, mmh. Et c'est là où ils vont faire une marge et de l'argent. Est-ce que quelque part aussi, ça limite, effectivement, vous parliez des gros festivals, qui peut se permettre de payer aujourd'hui un artiste 100 000 euros ?
Ah oui, non, mais ça fait partie du problème, hein. Effectivement.
Donc, c'est aussi l'évolution de ce qu'on disait. On n'achète plus de CD, on n'achète plus de disques.
C'est la manière de consommer la musique.
On consomme la musique différemment.
Et on n'en la découvre plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endroits ou moins d'endroits pour découvrir la musique. À l'époque, il y avait une presse musicale. Elle était ce qu'elle était. Mais en fait, tout le monde connaissait Best ou Rock'n'Fall, qui ont regardé, on voyait les groupes. Maintenant, cette presse, elle n'existe quasiment plus. Il n'existe plus que Rock'n'Fall, qui ne fait que beaucoup de, qui ressasse beaucoup de vieux groupes comme Pignon sur rue, comme Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Voilà. Il n'y a plus de presse, il n'y a plus les fanzines, il n'y a plus les radios libres. Les radios locales qui passaient et qui invitaient les artistes. Et il y a surtout une économie du spectacle qui est vraiment une économie. Et ce sont des gros industriels qui rachètent les festivals. Hein. On parle beaucoup de Bolloré dans la télévision, mais ils rachètent les grands festivals. Donc ce ne sont pas des gens qui sont des mécènes. Quoi. Ils sont là, c'est pour gagner de l'argent. Et comme en plus, ils ne peuvent plus en gagner grâce aux disques, ni les artistes, ni les grosses majors, ben, il faut absolument que ce soit sur de la scène. Quand ils vont investir sur un groupe, ils regardent. Moi, j'ai discuté avec l'ancien manager booker de Superbus, un groupe qui tournait un peu il y a quelques années, qui était pas mal. Et il disait, moi, ce groupe-là, en tout, il me coûte 120 000 euros. Si je vous donne 2 ans pour doubler, là, si je double pas, je change. Ce qui a changé, c'est ça. Hein. Me rappelle toujours, je le cite toujours un exemple, si j'ai le temps, hein, une anecdote.
Oui, vous avez le temps.
lors d'un repas avec Georges Moustaki, à qui je disais, écoute, Georges, à l'époque, Reggiani, Ferré, Brel, Moustaki, toi. Enfin, il y avait. Il me disait, mais attends, Pierrot, c'est pas un alignement de planète. Hein. Pas croire qu'il y a eu un coup et que pendant ces 10 ans-là, tout. Non, se trouve qu'à l'époque, il y avait des impresarios aussi. Les mecs avaient l'oreille, qui venaient voir. Il y avait des lieux pour jouer. Et nous, on jouait partout. On n'était pas super bien payé, mais on était payé partout. Il y avait des lieux. Et il y avait un public qui venait. Et le public, il était très divers. C'était toute classe sociale. De l'ouvrier qui sortait de l'usine à la profession libérale ou au commercial, les gens venaient parce que c'était dans la tradition, dans le trajet, d'aller le soir voir de la musique. Alors certes, il n'y avait pas les radios comme elles étaient, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'Internet. Et bien sûr, on comprend bien que ça vient aussi de là. Mais il me disait, moi j'avais l'impression, le mec qui venait me voir, il m'a dit, c'est super bien, quoi. Et donc, il m'a signé, il m'a fait faire des disques, sauf que comme tous les artistes, comme beaucoup d'artistes, j'ai eu la panne sèche, la page blanche, impossible d'écrire un morceau, un truc comme ça. Ça arrive à tout le monde et ça m'arrive à moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, l'impresario m'a dit, t'as du talent, moi je le sais. Ça, c'est momentané. Alors ne t'inquiète pas, ils m'ont payé un appartement. Quand je ne pouvais pas boucler les fins de mois, que j'avais un problème pour manger, ils me faisaient mes courses, ils me faisaient manger, etc. Ils se sont occupés de moi. Et quand c'est revenu, ils en ont bénéficié. Maintenant, un groupe, s'il a une panne, il est mort. C'est fini.
C'est fini.
Il va pointer à l'usine, boyeur. Voilà.
Oui, où il change complètement de direction. On va revenir sur le local, hein, puisque la GESP est implantée à Tarbes, on va parler du local. Il y a des groupes emblématiques qui sont passés chez vous et qui ont percé. Je pense par exemple à Boulevard Désert.
Boulevard Désert, oui, bien sûr.
Mais pas que.
Oui, et Boulevard Désert, là actuellement on a un trio de jeunes femmes qui s'appellent Madame, là, qui sont, chaque fois que j'ouvre leur Facebook, elles sont en tournée, elles sont en concert ici, là, elles ont joué en Angleterre, elles jouent dans les pays de l'Est, elles jouent en Italie, elles jouent partout. Enfin, c'est vraiment un groupe français qui, dont on ne sait pas qu'ils sont tarbés d'ailleurs, pas assez, je les engueule assez souvent pour leur dire, qui a démarré à la GESP, qui a été accompagné par la GESP, il y a Madame, il y a eu des gens qui sont venus travailler ici, même sans avoir de groupe, qui après, par exemple, Stéphane, qui était le bassiste de Dionysos, qui a travaillé chez nous, qui est devenu chez Dionysos, Zebda, qui a fait aussi beaucoup de choses sur la GESP, et beaucoup de... Moi, je rencontre dans les équipes artistiques des gens qui me disent, eh ben, attends, tu te rappelles pas, j'étais venu, j'étais gamin, etc. Et qui sont avec des groupes ou musiciens, qui était musicien d'Igelaine, d'ailleurs, qui était venu me le dire, mais tu te rappelles pas de moi, j'étais venu travailler à l'époque avec un autre groupe, j'ai dit quoi. Donc voilà, il y a eu des artistes et ça continue. Alors là, cette année, on a une pépinière qui est extraordinaire. Là, on a une belle génération qui arrive de groupe, là. Vraiment.
D'accord, vous êtes confiant. Par exemple, si on parle de Boulevard Désert, de Sanglia Gratuite, qui sont des groupes qu'on connaît ici, qui ont une réputation et pignon sur rue, vous le sentez de suite, vous qui avez l'habitude, vous sentez qu'il y a des groupes qui vont percer, qui vont évoluer, et puis il y a aussi un peu de chance aussi dans ce métier-là, non ?
Oui. Oh, c'est difficile de sentir, Boulevard Désert, ça a été quand même assez... quand ils sont arrivés dans mon bureau, c'était un peu confus, ils étaient très nombreux, ça partait dans tous les sens, quand on les a écoutés, c'était une nappe de musique. Par contre, on a de suite senti une espèce de fraîcheur, un charisme, avec Sylvain Dutu, le chanteur, qui a un charisme terrible, et on y a cru de suite. Alors de là à dire qu'ils allaient faire la carrière et qu'ils font à l'heure actuelle ou qu'ils ont fait, c'était un peu prématuré. Mais je me souviens que les premiers concerts qu'ils faisaient chez nous, les gamins, ils rentraient dans la salle en courant pour être devant, etc. Donc on avait senti qu'il se passait quelque chose. Après on peut se tromper. Moi j'ai eu un groupe, je cite souvent un exemple, c'était un groupe de Bagnères qui pour moi a été mon plus grand espoir, quoi, d'artistes. Je les ai envoyés à Paris, au Gibus, une salle mythique de rock, etc. Et tous les gens qui étaient invités, qui étaient des grands producteurs, m'ont dit là, il y a un vrai groupe, comme on ne l'a pas vu depuis longtemps en France. Et puis, l'été, on rencontre une copine, on va en fac, c'est fini. Et voilà, c'est ça, on est avec des gamins, ils étaient très jeunes, ils avaient 16 ans, 15, 16 ans, ces trois gosses, là. On gère des gamins, quoi. Les gamins, ils ont des vies. Ils sont passionnés par la musique, mais il faut serrer les dents. Et parfois, il y a la facilité aussi quand un gars.
Il y a les parents aussi, peut-être derrière, qui ont peur de.
Là, j'avais les parents qui étaient motivés, quoi. Ils étaient vraiment derrière. Parce que c'est vrai que de suite, on a eu des projets avec eux. Enfin, je me rappelle, je les ai amenés jouer à Paris, moi. Mes parents, ils m'avaient fait signer des trucs comme quoi il fallait pas qu'ils sortent le soir. C'était génial, quoi. Donc, ça crée des liens particuliers avec ces gamins, quoi. Bon, il y en a d'autres, là. Là, il y a un petit Lourdes, d'ailleurs, là, qui s'appelle Ozam, là, qui vraiment a une écriture, un talent. Celui-là, on l'aide beaucoup, on y croit. On a une belle génération, là, actuellement. Vraiment. La Mantalo, un duo assez étonnant, de slam et de folk à la fois. Ils ont fait leur premier concert en vraie salle. Mardi, à la GESP, on les a en accompagnement. Ils ont retourné à la salle, quoi. C'était vraiment superbe. Et ils ont une marge de progression, ça on le voit. On voit s'ils sont au bout ou non, mais ça on le sait de suite. Moi je leur ai dit que c'était à 20% pour les moutons, un peu, en 40. Voilà. Mais c'est bien. Il y a eu un creux, hein. Il y a eu un creux, y compris dans le hip-hop, dans le rap, etc. Maintenant ça revient aussi. On a les Militants, qui est un groupe de Tarbes qui est. Qui fédère beaucoup autour, donc ça nous permet d'avoir des petits jeunes qui arrivent, etc. Ça revient. De ce côté-là, ça revient.
Ça revient. Vous avez bon espoir, vous les accompagnez, bien sûr. Et oui. vous avez aussi des projets au niveau de la CESP sur la citoyenneté.
Oui.
C'est quoi ces projets ?
Disons que on essaie d'impliquer des... des jeunes artistes ou des artistes en devenir ou des jeunes qui ont envie de rencontrer la musique sans pour autant avoir de projets bien précis et de les impliquer sur des projets qui vont au-delà d'un... comment dirais-je, d'une implication à long terme. On sait que sur notamment le public de quartier qu'on peut avoir, la difficulté c'est de leur dire bon mais on va revenir répéter tous les jours, faire des ateliers tous les 8 jours de telle heure à telle heure, ils ont du mal. Donc on les fait participer à des projets qui leur parlent sur un temps, on va dire, flash, quoi. Par exemple, sollicité par la banque alimentaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour nous aider sur la collecte nationale? Bon, écoutez, on travaille avec un groupe de jeunes de quartier de Lourdes et un groupe de jeunes de quartier de Tarbes, qui se connaissaient pas d'ailleurs. On en a fait un collectif de rappeurs, ils sont encadrés par des rappeurs professionnels ou semi-professionnels. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est qu'un engagement citoyen aujourd'hui, à court terme, pas à long terme, parce que le long terme leur fait peur à ces gosses. À court terme, on dit, ben voilà, là par exemple, la banque alimentaire, ils distribuent des denrées, ils ont besoin d'un coup de main pour que on valorise cette action. Alors, ça veut dire que, eh bien, on les a rencontrés, les jeunes sont venus rencontrer la banque alimentaire, faire une collecte avec eux, et ils ont récolté la parole des bénévoles, des récipiendaires, de tout le monde, et avec cette parole-là, on travaille l'élaboration d'une ou deux chansons, une sorte de titre phare, que les jeunes vont mettre en musique, en parole, qui vont répéter, travailler là, on le fait sous forme de, on appelle ça le rap camp, les camps de rap, c'est les camps de vacances rap, où on fait de la musique pendant une semaine à la geste, ou ailleurs ou à Lourdes, parfois on le fait. Et donc ils vont construire un morceau, un clip vidéo, et ce clip vidéo va servir à la promotion de la collecte nationale de la banque alimentaire. Donc là, ils sont sur une action de citoyenneté et d'engagement.
On a bien sûr donc de la musique.
Oui.
Ils ont été donc impliqués, ils se sont imprégnés de ce que vivait voilà. La banque alimentaire quand ils vont chercher les denrées, quand ils les redistribuent. Ils ont été voir aussi les gens, comme vous le dites, qui voilà. Les reçoivent, qu'est-ce que ça leur fait. Et de toutes ces paroles, de ces témoignages, ils font une chanson, c'est
voilà.
Ça. Une chanson. Alors le rap, est-ce que souvent rap, pour les gens d'un certain âge, ça a une connotation un peu... capable de presse.
Ah, oui, mais il y a plusieurs formes de rap. Il y a le rap de groupes comme Sage Poète de la Rue ou les militants s'attardent ce groupe-là qui est un rap citoyen quoi, qui est un rap qui raconte la vie de tous les jours. Il n'a pas besoin de dire
les insultes,
etc. C'est les mots de la rue, c'est les codes de la rue. Mais dans ces rues-là, ils ont des choses magnifiques à dire et à voir et à vivre. C'est ça. C'est sur ça qu'on travaille. On ne les censure pas. Hein. Dès lors qu'on travaille le thème, qu'on en parle ensemble et qu'ils vont l'écrire, on n'a pas besoin de les censurer parce qu'ils captent les choses. J'ai un exemple qui s'est passé il y a 2 ans avec le collège de C à Tarbes. On a fait travailler des jeunes, qui étaient issus de quartier aussi, hein, des jeunes sur le thème des violences sexuelles et sexistes. Et hommes et femmes. Hein. Et donc, on s'est dit, bon, il faut encadrer un peu tout ça quand même, on va les faire écrire des textes, et on a quasiment pas retouché les textes. Parce que on est parti sur des discussions, qu'est-ce que c'est pour vous, et on a quasiment pas retouché les textes, et il est apparu des choses absolument hallucinantes. Par exemple, on était en pleine, c'était au moment de la bataille des retraites. Quasiment sur toutes les chansons, il disait, ouais, c'est quand même pas normal que ma mère n'ait pas la même retraite que mon père, quoi. Je veux dire, ou qu'une femme, etc. Et je veux dire, ils nous ont montré des choses auxquelles on n'attendait pas, on ne pensait pas qu'ils allaient nous dire ça. Et les textes, on ne les a quasiment pas retouchés. Parce qu'on leur donne, il y avait un objectif quand même, c'était lutter contre les violences sexuelles et sexistes. On leur expliquait ce que c'était.
Est-ce que quelque part, ces ateliers que vous proposez, par rapport à un cours de français classique, où on leur demanderait peut-être de faire un texte, une dissertation sur un thème aussi précis que celui-là, est-ce que quelque part le résultat serait pas le même? Est-ce que la musique là aide et leur style de musique aide?
Je crois, je le crois, on ne se substitue pas à l'éducation nationale, bien sûr, mais dans tous ces projets qu'on fait en milieu scolaire, on est accompagné par les professeurs de français, et qui les aident. Mais pour eux, ils s'emparent de ce support musical qui fait que les gamins sont plus attentifs, ils nous le disent, quoi. Effectivement.
Mais ça n'empêche pas. C'est pas le cours magistral classique.
Mais Michel Colomb. Mais ça ne les empêche pas de rencontrer les grands auteurs. Un souvenir d'un projet qu'on avait fait avec des jeunes de mon lycée, où, sur du slam, où on a, après le projet, je m'étais engagé de leur faire rencontrer Abdel Malik, qui est un slameur magnifique, et qui faisait un spectacle sur Albert Camus. Je veux dire, on les y a amenés, là. Ils ont parlé avec Abdel Malik, il leur a lu du Camus, etc. Et ils ont dit, mais c'est bien. C'est l'histoire moi je le dis souvent en musique, mais comme en littérature un peu, je scribouille un peu. Mais, en musique, dans la vie de tous les jours, faites manger un steak haché, des frites à un gamin, midi et soir, tout le temps. Au bout d'un moment, il vous dira qu'il n'aime que ça. Donnez-lui autre chose et vous allez voir qu'il va découvrir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu un problème. Moi, j'ai des gamins qui arrivent à la GESP, je leur dis, bon, vous voulez visiter la salle, qu'est-ce que vous étiez comme musique? Les mecs, ils me disent, on écoute Skyrock. Je dis, mais Skyrock, c'est pas de la musique, c'est une radio, c'est le nom d'une radio. Dites-moi ce que vous écoutez, quoi. Parce qu'on leur donne que ça. Et donc, du coup, ils ne repèrent plus ce qu'ils entendent. Ils entendent les morceaux, voilà.
De l'autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, les radios musicales jeunes ne sont pas en perte de vitesse sur... Moi, je vois, par exemple, mes propres enfants, ils n'écoutent pas la radio. Mais par contre, ils s'en font leur propre programmation musicale. Et moi, ils me font découvrir des morceaux qui ne passent jamais en radio, mais qu'ils ont grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, enfin à tout ça, et on écoute des chansons, bon, il faut écouter des choses que je ne connais absolument pas. Est-ce que là aussi, aujourd'hui, on consomme la musique, vous l'avez un peu dit, mais encore plus différemment que ce que, entre parenthèses, veulent nous imposer radio musicale, jeunes, c'est 30 ou 40 morceaux qui tournent en boucle.
Oui, puis qui sont financés par les radios, qui sont financés par les producteurs. Ça a toujours été comme ça. Avant, c'était la boîte de cigares qu'on envoyait à Dunkerque pour qu'ils programment. Maintenant, c'est quasiment de l'argent qu'on donne pour... Bon, voilà, c'est la règle. Non, mais les gamins, ils cherchent quand même. Moi, honnêtement, ils consomment autrement la musique. Ça ne veut pas dire qu'il la consomme mal, ça ne veut pas dire qu'il découvre
ou qu'il la consomme bien aussi.
voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans la manière qu'ils ont de consommer la musique, ils la consomment moins dans le spectacle. L'idée, c'est de les amener dans les salles. Il faut les amener dans les salles. Pour ça que tout le monde
pourrait le faire.
Mais oui. La musique, c'est sur scène, quoi. C'est tout. Un tigre, c'est dans la jungle, la musique, elle est sur la scène, quoi. Et quand ils viennent, c'est toujours pareil. Ça marche. Il faut les y amener. C'est notre rôle, c'est notre boulot. Voilà.
Sur une chaîne de télévision, là, de France Télévisions, tout cet été, tous les soirs, ils mettaient des concerts des grandes scènes, les vieilles charrues. Et là, on découvre les artistes, vous avez raison, de façon complètement différente. Un live, un concert, c'est pas un album enregistré dans un studio.
Mais non, c'est une vie et c'est autre. Ce sont des moments qui sont uniques. L'artiste, il est unique, il fait jamais le même concert. Et puis, dans une salle, il se passe des choses. J'ai le souvenir d'Alan Stivell qui était venu faire un concert à la GESP, donc avec sa cornemuse, etc. quoi. Et il y avait des Aragonais qui étaient venus avec la cornemuse aragonaise. Donc à la fin du spectacle, Alan Stivell est venu boire un coup avec le public dans le bar. Et les Aragonais ont joué un hymne breton, je sais pas, Trimetalord, qui n'était pas un hymne breton, mais une chanson d'Alain Stivell. Ils l'ont joué avec la sorte de gaïta. Les puristes vont dire que la gaïta, c'est plutôt landais, je sais pas, ou plutôt, pardon, galicien, mais fait une cornemuse espagnole. Et Stivell est monté sur une table, et avec sa cornemuse à lui, il a répondu avec Aquelos Montanos. Ça, c'est des moments uniques. Et ça n'est passé tellement, quoi. Ouais. Il s'en passe tellement. Higelin qui fait ses 2 heures de concert, qui finit le concert, qui sort de scène et qui me dit, je suis en train d'enregistrer un nouvel album, je veux le tester. Il remonte, il prend le piano, il joue son nouvel album à Tarbes.
Alors, je vous fais réagir sur quelque chose qui, je ne sais pas votre réponse, mais l'État a mis en place le pass culture pour les jeunes. Mais on peut s'apercevoir que dans ce pass culture, on peut s'abonner à Netflix, on peut s'abonner à des jeux, on peut acheter des jeux vidéo. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu dommage que ce pass culture ne serve pas à découvrir la scène vivante, quoi?
Ah oui, c'est un peu dommage, mais je crois que ça suffit pas, quoi, une pass culture qui serait dédiée vraiment à la scène vivante. Pass culture, c'est une manière aussi et très intéressante. On l'utilise beaucoup nous pour financer des projets de qualité en milieu scolaire. Moi, j'ai cru comprendre qu'il devrait y avoir une baisse de 20%. C'était un peu plus compliqué. C'est vrai que s'abonner à Netflix et aller voir un concert, c'est des choses différentes. Mais je pense que il faut les amener autrement. Alors, les amener autrement, c'est je peux pas parler de ma propre maison, donner les moyens à des salles comme des SMAC, c'est l'émission, donner plus de moyens. Il les donne, mais si on en avait plus, on ferait plus. D'essayer de construire ce chemin entre ces gamins qui écoutent de la musique à la maison et qui n'arrivent pas à aller en scène. C'est compliqué, même nous, on se pose des questions. On se dit, est-ce que notre programmation, elle n'est pas trop vieille, elle n'est pas trop ringarde, etc. Mais quand on fait des concerts de plus jeunes, c'est très compliqué, d'autant plus qu'on a un bassin de population sur Tarbes qui n'est quand même pas le bassin toulousain ou bordelais. Quoi.
Même s'il y a un peu d'étudiants, c'est pas bien sûr le réseau étudiant de Toulouse ou de Bordeaux.
Voilà, ouais. Les étudiants, ils sortent un peu difficilement parce que il faut faire les concerts en semaine. Donc si on fait en semaine, on a les étudiants, mais on n'a pas les jeunes qui sont les jeunes collégiens ou lycéens. Les étudiants, je parle de l'ENI, peuvent venir, mais encore ils organisent leur propre soirée le jeudi, c'est normal. Toujours en train de bosser, il se faut une soirée ou deux, c'est pas le même type de soirée. Il faut toujours chercher et essayer de se réinventer. On essaye parce que effectivement, on est toujours en recherche d'un public beaucoup plus jeune. Alors on le croise sur des concerts comme Ultra Vomit, qui se fera à Lourdes d'ailleurs. On le croise sur l'an dernier, on avait fait Spider-Z en hip-hop. Et puis les jeunes, ils aiment le bling-bling aussi quand même. Hein. C'est-à-dire que les groupes qui font recette, qui sont des groupes de qualité, chez les gamins, il faut pouvoir se les payer.
C'est ça, c'est ce qu'on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Pierre Domingès, le temps passe vite. Juste deux mots sur votre structure. Hein. Donc, elle se trouve à Tarbes, on va rappeler l'adresse.
Oui, c'est 23 rue Paul Cézanne.
Paul Cézanne, donc à Tarbes, dans le quartier de la Gespe, bien sûr, puisque vous les expliquez. Et j'ai appris qu'il y avait donc ce ruisseau, la Gespe, qui passait.
Oui, voilà.
D'où le nom de la salle. Combien vous êtes de salariés dans cette structure?
Nous sommes une dizaine. Là, peut-être entre 9 et 11, je ne sais plus. Je devrais, si m'entendent, ils vont tous râler. Mais on est une dizaine de salariés.
Une dizaine de salariés à temps plein.
À temps plein. Et après, il y a, en fonction des projets. Sur l'intermittence, par exemple, sur les concerts, on utilise des intermittents.
Il y a du renfort,
Il y a du renfort, ça dépend des groupes, mais bon, ça peut être 4, 5, 6, 6 personnes en plus, quoi.
On finit par peut-être la programmation. Nous sommes début octobre. Il y a toute cette saison où ça fonctionne un peu aussi comme l'école, les septembre, juin. La programmation, les grandes dates ou les grands moments forts de la GESP pour 2025-2026.
Les grandes dates de 2025, bon, on a Johnny Montreuil le 10 octobre. Qui est une vraie découverte. C'est un groupe parisien qui mêle gouaille des années 30 à Paris, à la chanson de rue, avec quelque chose d'un peu plus rock'n'roll et aussi l'imagerie des caravanes qui vivaient dans la banlieue de Paris, avec un petit peu de chineurs, de ferraille, etc. Tout cet univers-là, c'est très poétique et en même temps, c'est très énergique. Il y aura le grand moment, ça va être quand même le concert Ultra Vomit qui se fera à Lourdes. de mémoire fin novembre. Voilà, c'est du métal, c'est un métal de burlesque, assez déjanté, on va dire. Et puis des coups de cœur toute la saison avec les Croquants, qui sont deux musiciens d'Olivia Ruiz d'ailleurs, et qui avaient arrêté un petit peu de tourner parce que bah, ils étaient dédiés avec ces projets, ces gros projets, ces grosses tournées d'Olivia, et qui se font appeler les faussaires de la chanson française. Donc ils vont chercher des morceaux tout le monde connaît, quoi. Les Loups sont rentrés en Paris, les Amants de Saint-Jean, etc., qui refont d'une manière beaucoup plus moderne avec les instruments atypiques, hein, ils vont aller chercher un harmonica, un ulcémère, un ukulélé, et très énergique, etc., et ils font une petite tournée de 5 dates, et comme ils font partie de la famille de la GESP, et ils nous font le plaisir de venir aussi début décembre, ça sera un bon moment. Un truc un petit peu marrant aussi, qu'on fait en collaboration avec le Parvis de Tarbes, le Parvis de Tarbes fait une soirée, en octobre aussi, une soirée Tarantino au cinéma, et nous le lendemain, on fait venir un groupe qui s'appelle 5678, alors c'est en anglais, 5678, j'ai toujours du mal, donc j'hésite. Hein. Et qui est le groupe de, pour ceux qui ont vu le film Kill Bill, la scène finale, il y a un groupe qui joue là, pas dans la grosse scène de bagarre, quoi. Et c'est ce groupe-là qui va venir. Et donc il va y avoir la bande originale du film, etc., qui va être jouée en live. Donc voilà, ça c'est les beaux moments. Après, il y a déjà des pistes pour l'an prochain. Il va y avoir un hommage aux 50 ans du groupe Les Clash, avec The Last Gang in Town, un groupe de cover de Clash. Il va y avoir le groupe d'Amy Winehouse qui viendra faire un concert aussi, avec une chanteuse, bien évidemment, puisque Amy Winehouse n'est plus là, qui est une super chanteuse de soul, c'est super beau. Bertrand Belin, Abdelmalik, il y aura plein de belles choses.
Plein de belles choses, et on invite donc les gens, s'ils veulent avoir la programmation complète ou avoir des renseignements, oui, d'aller sur votre site internet.
Voilà, www.lagesp.com.
Pour terminer, Pierre Domingès, votre plus belle rencontre, parce qu'on sent dès qu'on parle programmation, vous avez les yeux qui brillent, ça pétille. Votre plus belle rencontre, quelque chose qui vous a marqué?
Alors, je ne suis pas très musicateur là, mais les plus belles rencontres qui m'ont marqué, il y en a eu deux. Alors, bon, je ne peux pas raconter les deux, mais on va dire, ça a été Lenny Escudero et Juliette Gréco. Voilà. Lenny Escudero, moment exceptionnel. Et Gréco aussi, vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette soirée, et puis c'est magnifique de rencontrer des gens comme ça. Alors Higelin aussi, et Jacques Higelin, mais on se connaissait déjà un peu. Nina Hagen, même si le concert n'a pas été très bon, le personnage, il faut la croiser quand même une fois dans sa vie. Mais c'était Lenny Escudero pour moi.
Et quelqu'un que vous souhaiteriez rencontrer aujourd'hui? Ah, c'est la réflexion est un peu plus longue.
Il y en a un vraiment. C'est un chanteur anglais qui n'est pas connu du tout en France, qui est un poète anglais qui a mis sa poésie en musique, qui s'appelle Billy Bragg. Alors lui, voilà, je suis allé le voir en concert à Bruxelles, et ça avait été annulé la veille. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour voir ce garçon, et à tel point que là, je pense qu'il va jouer à Brighton normalement en janvier, et je vais prendre mon passeport pour aller en Angleterre pour aller le voir, parce que je ne l'ai jamais vu sur scène. Voilà. et j'aimerais le rencontrer, j'ai besoin de parler avec lui. Parce qu'il a rencontré Joe Strummer des Clash, il fait partie aussi d'un panel, d'une histoire de la musique anglaise qui m'intéresse.
Voilà, donc toujours des projets sur cette SMAC, la GESP, donc à Tarbes, avec une belle programmation. Vous nous avez expliqué la genèse de cette salle, comment elle est aujourd'hui, où on en est. Ce travail que vous faites aussi avec les plus jeunes, voilà, cette collaboration. On invite bien sûr à venir voir la programmation, et puis, vous l'avez dit, hein, venez dans des salles, venez consommer la musique dans des salles, parce qu'un concert, ça n'a rien à voir avec un disque qu'on écoute sur ses oreillettes, sur les casques ou sur les smartphones.
Pas pareil, c'est pas le même projet, et puis il n'y a pas de rencontre.
Et puis il n'y a pas de rencontre.
On rencontre que soi-même, ce qui est bien parfois. Mais sur les salles, moi je vois les gens quand ils discutent dehors, c'est super, ils se racontent ce qu'ils ont vu ensemble en plus, quoi.
Un grand merci à vous, Pierre Domingès.
Donc, merci
le responsable de parler de cette belle salle. C'est chez nous, c'est dans notre coin. Vous avez lancé, on l'a dit, hein, des grandes pointures. On parle de sangria gratuite, mais surtout Boulevard Désert aussi, qui a une tournée internationale. Et qu'on espère bien sûr qu'ils vont, je crois, qu'ils repartent ou ils sont en train de remettre quelque chose en place.
Hein. Oui, ils ont démarré une tournée qui marche apparemment très bien. Je crois qu'ils font une sortie d'album à Tarbes, d'ailleurs. Dans quelques jours, ils ont déjà des dates prévues sur 2026, la nouvelle tournée fonctionne bien. Ils ne sont plus avec Sylvain Dutu, qui ne chante plus avec eux, mais le travail de Sylvain aussi est magnifique. Il est venu l'an dernier à la GESP, la salle était pleine, et lui aussi est en train de faire un bon bout de carrière.
Carrière solo qui démarre bien.
Ah ouais. Donc voilà, les chemins... ils sont séparés, mais tout le monde fait sa carrière et ça c'est très bien.
Merci à vous.
Merci.
Pierre, vous êtes un habitué à Radio Présence puisque vous venez pour parler de la chasse, mais de temps en temps aussi on vous a dans Un jour un livre en auteur avec votre ami Diego Rabal,
oui, Diego,
qui vient de temps en temps parce que vous êtes aussi vous écrivez des livres.
D'accord.
Ouais. Et sur votre vie, votre passé. Il y a une émission sur RTL où tous les soirs il y a grand homme de la musique qui fait découvrir des chansons. Ça vous a jamais, avec cette connaissance musicale que vous avez, ça vous a jamais tenté de faire une émission de radio ou parce que vous parlez, on présente simplement un disque, souvent à la radio, on dit, mais voilà, c'est tel chanteur, tel titre qu'on va écouter, et puis on le désannonce, mais vous avez cette connaissance de l'artiste.
Ah bah, oui, mais j'ai tendance à beaucoup parler quand je suis...
devant un micro.
Mais c'est-à-dire,
devant votre passion.
Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire, comme chaque morceau, chaque musique a une histoire, que j'essaie de la connaître, de la rencontrer, cette histoire, j'ai envie de la raconter.
Eh ben oui.
Donc, une émission de radio, il y aurait trois morceaux et une heure de parlotte. Donc, je ne sais pas, mais oui, je le fais de toute façon. Enfin, je ne le fais pas en radio, mais je vais faire des petites conférences dans les lycées, dans les collèges, où leur parle de l'histoire du blues, de l'histoire de la soul, du rock, etc.
Mais vous avez fait des festivals aussi. Il y en avait un qui était un festival qui...
De rockabilly, oui.
Qui existe encore ?
Non, c'est fini. C'est fini, voilà. Mais oui, il y a plein de choses qui me restera à faire. Voilà. Y compris de la radio, peut-être, on verra bien.
Et qui sait ?
Voilà.
Merci, Pierre
Domingès. Merci.
Au revoir.
L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.